Nous allons ce matin dans l'Évangile selon Marc pour lire l'un des trois textes qui nous sont donnés aujourd'hui. Marc chapitre 12, les versets 28 à 34. Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Le spécialiste des Écritures reprit: très bien, maître. Ce que tu as dit est vrai, Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit: tu n'es pas loin du règne de Dieu. Et personne n'osait plus lui poser de questions. Si l'on commence par donner quelques définitions pour camper un peu mieux les personnages, si d'aventure on ne connaissait pas ce qu'étaient les scribes, les pharisiens et les sadducéens, il faudrait peut-être s'apesantir ici sur le cas de ce scribe. Le scribe, vous le savez peut-être, sûrement même, est un bon connaisseur. La traduction que je viens de vous lire a traduit d'ailleurs par spécialiste des Écritures, un expert. Le genre de personnage qu'on invite sur les plateaux pour lui demander son avis. C'est un bon connaisseur des textes à la fois juridiques et religieux de son époque. Il les connaît bien, jusque dans le moindre détail, parce que c'est son devoir, c'est son métier, sa tâche, sa vocation, on pourrait dire, d'éclairer ses contemporains sur le sens de leur vie à partir de ces textes. Il est le descendant assez lointain d'une longue lignée de personnages au bénéfice d'une révélation, une longue lignée de prophètes également, sauf qu'autrefois, les prophètes étaient l'objet de visions. Ils étaient des visionnaires, à défaut d'être des voyants. Et puis le temps a passé, et désormais, la parole qu'on estime venir de Dieu est un document qu'on lit et qu'on relit. Dieu s'est laissé coucher sur le papier. Le scribe qui s'adresse à Jésus ce jour-là n'est pas un de ces spécialistes imbus de son savoir ou de son érudition. C'est un peu le problème avec les experts dont on dit parfois « ils savent tout et rien d'autre ». Il n'est pas imbu de son savoir, il cherche à poser une question honnête, pas pour coincer ce Jésus, vous savez, ce petit prophète qui monte. Il est sincère et droit. Il pose une question sans penser à faire de croche-pied. On dirait même qu'il traite Jésus d'égal à égal pour parler de l'essentiel, de ce qu'il y a de plus important. Le premier. Quel est le premier de tous les commandements? C'est un peu comme si deux experts se réunissaient au sommet pour parler des choses qui importent le plus au monde en étant un peu seul au monde. Évidemment, nous ne sommes pas, nous, spécialistes. Des spécialistes qui se réunissent au sommet pour discuter des choses importantes. Encore que, je pourrais le dire de moi, puisque je suis quelques marches plus haut. C'est relatif. Mais si nous venons ici, c'est bien pour essayer de relire ce Dieu qui s'est laissé coucher sur le papier. Pour nous demander, nous aussi, comme ce scribe, ce qui est essentiel. C'est-à-dire faire un tri entre ce qui l'est et ce qui ne l'est pas, ou ce qui l'est moins. Comment discerner un chemin praticable parmi toutes les routes qui se présentent à nous, et il y en a beaucoup. C'est bien pour répondre à ce genre de questions que nous nous rassemblons ici, ou ailleurs, dans d'autres lieux comme celui-ci. Nous sommes, au fond, comme ce scribe. Nous nous savons héritiers d'une longue tradition qui, entre nos mains, est un peu comme notre lampe qui éclaire notre route. dans le dédale des systèmes ou des voies spirituelles qui s'offrent à nous, comment s'orienter s'il est vrai que nous vivons peut-être bien dans un supermarché où tout ce qui se trouve dans les rayons est supposé essentiel, immanquable? Comment faire le tri? Et puisque nous faisons partie d'une tradition particulière qui nous a légué beaucoup de choses et qui nous propose elle-même beaucoup de choses à penser, à croire, à faire, que privilégier dans la multiplicité des croyances, des pratiques, où est notre essentiel? C'est bien pour cela que la question du scribe à Jésus, loin d'être un piège, est une bonne question. Une question aussi valable pour ceux qui sont engagés que pour tous ceux qui sont, disons, simplement en recherche. Le tri ne se fait pas entre les premiers et les seconds, d'ailleurs. Il n'en est pas question ici. Où est l'essentiel? Que privilégier dans ce qui se présente comme important? Jésus résume la volonté de Dieu au travers du commandement d'amour. Il n'innove pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en rappelant ses commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain sont déjà dans la loi. D'ailleurs, ces deux personnages-là la connaissent bien. Ils ne font que se la rappeler, la réciter par cœur. Ils sont au moins d'accord là-dessus. La tradition des prophètes affirmait, elle, fortement, ce qui est rappelé aussi ici, que tout cela vaut bien mieux que des holocaustes ou des sacrifices. Ça aussi, c'est un rappel important. Mais rien de nouveau. Du rappel. Une piqûre, si vous voulez. Si l'époque ne nous en proposait pas autant, ce serait presque drôle. L'apport de Jésus consiste simplement à lier ces deux invitations et surtout à les présenter comme l'essentiel. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux commandements-là. On remarque que ce terrain d'entente, parce qu'il y en a bien un, et comment, est assez peu religieux, finalement. Il est surtout éthique, ce n'est pas dans le domaine des pratiques religieuses pures, dans les affirmations de doctrine, quelle qu'elle soit, que se trouve cet essentiel. Ces deux personnages ont l'air d'être au moins d'accord là-dessus, on tient peut-être quelque chose. C'est plutôt dans les choix parfois difficiles du quotidien que cet essentiel doit être mobilisé autant que possible. La vraie religion, c'est celle-là. C'est cet amour fraternel démontré. Jésus reprend donc à son compte deux commandements dans une loi qui en compte 613 au moins. Dans la transcription que Matthieu fait de ce même échange entre Jésus et ce scribe, le Jésus de Matthieu, qui n'est pas le même que le Jésus de Marc, entre guillemets, ajoute que le second terme, l'amour du prochain, est semblable au premier, l'amour de Dieu. Il parle donc d'égalité entre les deux propositions. C'est plus net, disons, chez Matthieu que chez Marc. Mais alors, me direz-vous, si Jésus ramène toute la volonté de Dieu à l'amour, comment peut-il s'agir d'un commandement? Que serait un amour qui se manifesterait sur ordonnance? Est-ce seulement pensable? Peut-on commander des sentiments à qui que ce soit? Nous sommes effectivement piégés par les différents sens du mot amour. Au sens initial, l'amour est un mouvement instinctif. Ça doit venir tout seul, hein, et pas après une demi-heure de réflexion. Et c'est en relation avec nos sympathies et nos antipathies. C'est un peu comme quand quelqu'un vous demande « dis-moi quelque chose de gentil », il faut en général avoir quelque chose de prêt tout de suite, parce que la moindre seconde d'hésitation paraît louche, et on le comprend. Il faut que ce soit spontané, et Jésus, certainement, dans ses rencontres, avait lui aussi ses mouvements d'humeur spontanés, il avait ses préférences. Mais quand il parle d'amour, agapé, il parle d'autre chose. Il évoque notre acceptation de la vie aux frontières de l'universel, c'est-à-dire ce qui nous permet de sortir de chez nous pour aller enfin à la rencontre des autres, chercher du commun avec eux, du vivable ensemble et pas simplement un simple repli sur ce qu'on tient pour vrai. Lorsque nous reconnaissons en tout homme l'image de Dieu, nous sommes au seuil de cette chose-là. Celui qui nous est obligatoirement proche, celui qui devient notre prochain, parce qu'il s'est approché de nous, parce que nous nous sommes approchés de lui ou les deux en même temps, alors Quand cette rencontre arrive, quand elle a lieu, nous pouvons nous ouvrir à cette vision du royaume de Dieu et de sa lumière. Il y faut évidemment quelque chose qui nous précède, comme une proposition qui nous est faite. C'est Dieu qui l'a fait ici. Et c'est aussi notre effort constant, parce qu'il faut aussi une participation de notre part pour sortir de nos égoïsmes et demeurer disponible à tout ce que Dieu révèle à nos cœurs et nos esprits, comme si chacun devait faire sa part, sa distance à parcourir. Et dire que l'amour du prochain compte autant que l'amour de Dieu, et qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, n'allait pas de soi. Il y avait bien au départ une hiérarchie entre les deux. L'un était plus important que l'autre. Le décalogue commençait d'ailleurs par ce que l'on devait à Dieu, et puis ensuite venait le reste. Les mettre sur un même niveau, c'est peut-être ça qui est dérangeant, mais pour aucun de ces deux personnages, ni Jésus, ni ce spécialiste de la loi, n'ont l'air d'être choqués par cela, comme si c'était devenu enfin évident pour eux. Jésus innove quand même un peu, parce que le commandement de Moïse demande d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est Jésus qui ajoute de toute sa pensée, de toute son intelligence, comme s'il était réclamé de chacun de nous, ce qui est plus évident en relisant Marc, que chacun donc mette son intelligence au service de l'autre, de sa compréhension des Écritures, de sa manière de la partager avec d'autres, malgré nos désaccords, malgré nos différences. L'intelligence et la foi ne se contredisent pas, comme on l'a souvent enseigné. Elles doivent au contraire s'aider mutuellement. Et quand on remet les choses à plat ou quand on met enfin les deux plateaux à l'équilibre, ces choses vont de soi, enfin. C'est pour cela que Jésus va un peu plus loin que la loi en prônant l'amour comme manière de connaître et aussi de servir, en sollicitant notre intelligence pour sonder personnellement les Écritures. Jésus dit comme ça, sans précaution, sans embâche, que la volonté de Dieu ne se réduit jamais ni à une doctrine, ni à une morale, à un système, même s'ils ont leur raison d'être. Contrairement à ce qu'on entend trop souvent, Jésus affirme qu'il n'y a aucune recette, aucune affirmation, aucun dogme, aucune pratique privilégiée pour aller vers Dieu, l'honorer et accomplir sa volonté. Nous aimerions peut-être, ce serait un protocole maîtrisable, mais ça n'existe pas. La priorité absolue de l'amour rend toutes ces choses, non pas caduques, inutiles, mais secondes, elles viennent après. Tout cela nous rend totalement libres et par conséquent totalement responsables, parce que la liberté, nous le savons bien, il faut soi-même en faire quelque chose. Et c'est tout un travail. Jésus ne nie pas le bien fondé ou l'utilité des religions, des traditions. Ce sont elles qui nous véhiculent ces choses qu'il faut relire. Nous ne pouvons être que reconnaissants vis-à-vis d'elles, mais elles ne font pas tout. Il dit aussi clairement leur caractère second par rapport au programme qu'est le royaume pour nous. Les premières nous portent, le second exige notre engagement. Ce n'est pas la même vocation, le même type d'appel. Les holocaustes, les sacrifices, les sacrements, les pratiques cultuelles restent nécessaires, pourvu que nous n'en fassions pas des distributeurs ou des télécommandes. C'est pour cela qu'à travers le temps, le dialogue entre Jésus et ce scribe, auquel nous serions bien inspirés de ressembler d'ailleurs, rappelle inlassablement que l'essentiel de l'Évangile n'est jamais ni un dogme, ni une confession de foi ou une chapelle, mais bel et bien une manière de vivre. Rien n'est codé, ni définitivement gravé dans le marbre. Qui sait cela, ajoute Jésus, est proche du royaume de Dieu. Au fond, il faut s'imaginer les choses comme une conversation. La proposition du royaume vient de nous être faite. Notre interlocuteur attend notre réponse. Eh bien, nous ne pouvons pas nous contenter, comme si nous étions dans un amphithéâtre ou une salle de classe, de rester assis en prenant des notes animées du seul souci de ne rien perdre. C'est important. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore lever la main et prendre la parole pour poursuivre la conversation. Pour nous qui sommes, comme ce scribe, passionnés d'essentiel, déchiffreurs tenaces d'un Dieu qui s'est laissé coucher sur le papier, la bonne manière d'être visionnaire, à défaut d'être des voyants, est sans doute d'entretenir avec le monde cette conversation où chaque interlocuteur est un prochain, colocataire à part égale d'un royaume encore en chantier. Il n'y a pas de commandement, ou si vous préférez, pas d'invitation plus importante que celle-là. Amen.